Bonjour Eric et bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, ce 21e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes réunis en délégation à Saint-Nazaire pour faire le point sur leur mouvement et réfléchir sur la suite à donner à leur mobilisation. À suivre, le verdict tombé hier soir à Aix-en-Provence dans l'affaire Air Cocaïne. Les deux pilotes ont été condamnés à 6 ans de prison, le commanditaire à 18 ans. Un verdict accueilli par les cris des proches des accusés. Autre verdict, celui prononcé au Maroc par la cour d'appel de Casablanca, accueilli lui aussi par des larmes et des cris de colère. Les meneurs d'un mouvement de protestation remontant aux années 2016-2017 ont été condamnés à de lourdes peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion pour 4 des organisateurs. Depuis hier et jusqu'à demain soir, place au Sidaction et un constat, la progression en France des contaminations chez les jeunes mais aussi les seniors. Un numéro pour vos dons, le 110 ou bien l'adresse internet don.sidaction.org. C'est aujourd'hui le début des congés de printemps avec un conseil. Si vous devez prendre la route, celui de penser à faire réactualiser vos vieux GPS qui pourraient être victimes d'un bug. À 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard et au sommaire, la victoire en football. Hier soir de Bordeaux sur Marseille, battu 2-0 à l'occasion de la 31e journée de la Ligue 1. Et à 8h20, les Qatar Papers en compagnie de vos invités, Eric Delvaux.
Oui, les deux journalistes Christian Chesneau et Georges Malbruno, auteurs donc de l'enquête Qatar Papers, parue aux éditions Michel Lafon, enquête et révélation sur le financement et l'influence du Qatar en Europe et en France en particulier.
France Inter. C'est aujourd'hui l'heure de l'introspection et des décisions. Introspection pour Emmanuel Macron, qui vient de boucler son tour de France du grand débat, qui, après une centaine d'heures de discussion, va devoir maintenant et rapidement trouver des solutions fortes pour répondre aux multiples attentes des Français. Solutions et mesures qui, selon l'Élysée, devraient commencer à être annoncées mi-avril. Introspection également au sein des Gilets jaunes, réunis tout ce week-end à Saint-Nazaire, alors qu'ils s'apprêtent à entamer aujourd'hui leur 21e samedi de mobilisation. 700 d'entre eux, regroupés au sein de 250 délégations venues de toute la France sont actuellement réunies et jusqu'à demain soir à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire pour réfléchir sur la suite à donner à leur mouvement. Saint-Nazaire, Anne Patinec.
La Maison du Peuple n'étant pas assez grande pour accueillir tout le monde, des tentes ont été dressées sur le bitume du parking et des tables et chaises installées en plein air. Souvent un gilet jaune sur le dos, les participants se réunissent par petits groupes. Ils évoquent leurs actions dans leur ville ou village. Stéphanie est venue de Langon en Gironde.
Ça nous permet de voir qu'on n'est pas seul, que ça agit aussi ailleurs. C'est important pour la suite.
Car tous, comme Franck de Moselle, sont convaincus que le mouvement ne va pas s'arrêter là.
On a commencé au mois de janvier avec une assemblée avec 72 délégations. De mémoire. Là, on est 200 délégations. La prochaine, combien qu'il y aura? Ce sera dans combien de temps? On ne sait pas, mais on sait que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Contrairement à ce que veut bien dire le gouvernement. En fonction des secteurs, on ne fait pas forcément le même type d'action. Donc, essayer de mettre tout ça en commun, ça peut nous donner des idées. Et nous, nos actions, ça peut donner des idées à certains aussi. C'est le partage et puis l'unité, quoi, pour regarder loin devant, tous ensemble, dans la même direction.
Et pour Adèle, gilet jaune à Rungis, ce n'est pas la synthèse du grand débat prévu pour lundi qui changera quoi que ce soit.
C'est pas son grand débat que j'appelle moi personnellement une thérapie de groupe. C'est pas son grand débat qui va changer quoi que ce soit, parce qu'on sait très bien que ce qui va en sortir, ça va pas être... Moi, je suis prêt à mettre une pièce sur l'issue du grand débat, il y aura pas grand-chose.
En ce samedi, les gilets jaunes n'ont pas prévu de manifester à Saint-Nazaire. Ils vont continuer à réfléchir, à débattre et à s'organiser.
Anne Patinec de France Bleu Loire-Océan, un 21e samedi de mobilisation des gilets jaunes qui devrait encore être marqué par un certain nombre de manifestations à Paris, à travers toute la France. Paris, où les secteurs des Champs-Élysées, de la Place de l'Étoile et de l'Assemblée nationale restent interdits à toute manifestation.
Le verdict est tombé hier soir dans l'affaire Air Cocaïne. D'ailleurs, un verdict assez lourd.
La cour d'assises spéciale a en effet condamné dans la soirée 7 des 9 accusés de l'affaire Air Cocaïne à des peines allant jusqu'à 18 ans de prison pour le commanditaire de l'opération et 6 ans contre les pilotes Bruno Odos et Pascal Fauré. Affaire remontant à mars 2013, époque à laquelle les deux pilotes avaient été arrêtés en République dominicaine au moment où ils s'apprêtaient à prendre les commandes de leur Falcon 50 chargé de 700 kilos de cocaïne. C'est donc une nouvelle douche froide pour les prévenus et leurs familles et notamment pour François-Xavier Manchet, ce douanier qui aurait apporté son concours dans cette affaire et qui écope d'une peine de 5 ans de prison, une peine supérieure à celle requise par l'avocat général. Son avocat, lui, maître Thierry Fradet, au micro de Marie-Christine Loriol.
Au-delà du principe de la condamnation, les peines sont adaptées à rien, en fait. Il n'y avait pas de preuves, il y avait de quoi acquitter très largement la plupart des accusés. Et puis, pour répondre à la question qui vient de m'être posée, pourquoi la peine n'est pas adaptée? Parce que ce ne sont pas des voyous. Et le niveau de répression qui a été atteint ce soir... Et le niveau de répression qu'on a l'habitude de voir pour la criminalité organisée, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire. Donc, la condamnation en elle-même choquante et les peines qui ont été prononcées pour des gens qui n'ont jamais été condamnés ne tiennent pas compte des réalités de ce dossier humain et des éléments.
Deux des neuf accusés ont pour leur part été acquittés à l'issue de ce procès qui a duré 7 semaines à Aix-en-Provence.
Un autre verdict, lui aussi plutôt lourd, rendu par la cour de Casablanca au Maroc, à l'encontre des meneurs d'un mouvement de protestation remontant à 2016-2017.
Les 42 meneurs de ce mouvement du Irak, c'est son nom, qui avait agité la région du Rif, au nord du pays, après la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures, ont en effet vu leur condamnation confirmée, condamnation allant jusqu'à 20 ans de prison pour 4 des leaders du mouvement des meneurs, qui pour la quasi-totalité ont refusé d'assister à l'audience. Une correspondance de Théo Olivier, RFI pour France Inter.
Le verdict est tombé à minuit après plus de 6 heures d'attente. Toutes les sentences des détenus du Irak ont été confirmées en appel. Pour l'avocat de la défense, Maître Arnage, c'est une surprise. Il ne s'attendait pas à une confirmation catégorique de toutes les peines. Accusé notamment de participation à une manifestation non autorisée ou insulte envers les forces de l'ordre, les 53 détenus du Irak ont été condamnés en juin dernier à des peines allant de 1 à 20 ans de prison. Les 4 leaders du mouvement, dont le plus connu Nasser Zefzafi, ont écopé des peines les plus lourdes, notamment pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le journaliste Hamid El-Madawi est lui poursuivi pour non-dénonciation d'une tentative de nuire à la sécurité intérieure de l'État. Toute la soirée, les familles des détenus ont attendu sur les bancs du hall de la cour d'appel de Casablanca, la mine fatiguée. L'audience de 2h30 s'est déroulée sans la grande majorité des détenus qui sont restés dans la prison de Okacha, eux qui ont boycotté les autres audiences du procès.
Théa Olivier, et puis en Algérie cette fois-ci, des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup de jeunes, ont une nouvelle fois défilé hier dans les rues d'Alger et des autres villes du pays, des manifestants pour qui la démission d'Abdelaziz Bouteflika cette semaine ne suffit pas. On est complet, c'est le message martelé par Donald Trump à la frontière mexicaine, message adressé par le président américain aux candidats à l'immigration clandestine. Notre système est complet, on ne peut plus vous accepter, ainsi déclaré Donald Trump en déplacement dans une petite ville californienne à la frontière mexicaine. Enfin, il y a 25 ans de cela, le massacre des Hutus contre les Tutsis marquait l'histoire. Nous y revenons dans le journal de 9h.
C'est un week-end de 6 d'action, 3 jours pour alerter et rappeler que le virus est toujours là, 3 jours pour recueillir des dons pour la recherche.
6000 nouveaux cas sont en effet diagnostiqués chaque année alors que l'on assiste à une progression des contaminations supérieure à 20% chez les jeunes de 15 à 24 ans, mais aussi chez les seniors. Souvent, les dépistages sont tardifs, trop tardifs même, alors que des autotests fabriqués entre autres par une société strasbourgeoise, la société Biosynex, sont des plus accessibles en pharmacie, comme a pu le constater Corinne Fugler de France Bleu Alsace.
Le test coûte une dizaine d'euros. Sophie Reich tient la pharmacie de Lange à Strasbourg. Elle en vend régulièrement.
J'ai eu pas mal de demandes. J'ai un présentoir que je pose aussi à l'avant dans la pharmacie. Donc c'est quelque chose qui permet l'accès au plus grand nombre.
Et vous avez l'impression que les personnes qui viennent dans votre pharmacie se sentent assez libres de demander le test?
Oh oui, sans aucun problème. Autant qu'on demanderait un sirop pour la toux, on peut demander un test, il n'y a aucun souci.
Le VIH se traite bien, mais ce n'est pas une maladie banale. Il ne faut pas baisser la garde, rappelle Caroline Papelier, animatrice à l'association Aide, et ne pas hésiter à se faire dépister.
Environ un quart des diagnostics sont tardifs. Ça montre que le dépistage n'est pas encore assez présent parmi les populations. Soit les personnes ne se sentent pas concernées, soit elles sont dans le déni. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que maintenant le VIH se traite très bien et qu'il est, on espère, de moins en moins stigmatisé. Donc la meilleure chose à faire, en fait, c'est de se dépister, de savoir. Si on est dépisté positif, on peut au moins se traiter, on ne va pas être malade grâce au traitement et on ne va plus contaminer autour de soi. Donc c'est toujours mieux de savoir que de rester dans le déni.
En cas de doute, après un rapport à risque, il existe des traitements d'urgence disponibles à l'hôpital et dans les centres de dépistage.
Corinne Fugler, et pour faire un don SIDAction déductible de vos impôts, il vous suffit d'aller sur internet à l'adresse suivante don@sidaction.org ou bien alors en composant le 110, un numéro valable jusqu'au 22 avril. C'est la fin de ce journal. L'heure de retrouver Eric Delvaux.
Merci Serge Martin.